Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Le saviez-vous ? Dans le silence feutré d'un matin de septembre à Toulouse, l'écriture a rendez-vous avec la lecture. Mais où donc ? En un lieu où les mots, passant mystérieux de l'âme, traversent l'espace pour se poser délicatement sur des pages blanches, tout simplement en la demeure de l'Académie des Jeux Floraux, à l'hôtel d'Assesa précisément. Ici, chaque stand est une constellation, chaque livre une planète à explorer. Gardiens de ces mondes, les auteurs qui ont appris à lire dans les étoiles vous attendent patiemment, prêts à partager leurs univers, car ils savent qu'écrire, c'est dessiner une porte sur un mur infranchissable et puis l'ouvrir. Vous, lecteurs, voyageurs immobiles, curieux, chercheurs de vérité, aventuriers de l'esprit, amoureux des mots, laissez-vous attirer par la lumière douce des histoires inédites, car la lumière est dans le livre, alors ouvrez le livre tout grand, laissez-le rayonner, laissez-le faire, ici le temps suspend son vol, ici, quel délice, c'est le salon des gourmets de lettres que nous allons découvrir aujourd'hui. J'ai donc le plaisir de recevoir l'association toulousaine Les Gourmets de Lettres qui tient son salon du livre du 26 au 28 septembre, c'est-à-dire ce week-end, à l'hôtel d'Assesa. Pour nous en parler, nous recevons son président, Philippe Béroux. Bonjour Philippe Béroux.
Bonjour.
Sa trésorière, bonjour Denise Lacoste.
Bonjour, trésorière adjointe. Pardon.
Trésorière adjointe, soyons précis. Et Jean-François Vessière, chargé de communication et écrivain. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Bonjour à nos auditeurs. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale Salon du Livre, où vous allez pouvoir d'abord découvrir une association qui s'appelle toulousaine qui s'appelle les Gourmets de Lettres. Et vous allez aussi être informé sur les coulisses d'un salon du livre, l'organisation et tout ce qu'il propose. Je remercie donc tous les auditeurs d'être bien attentifs à cette émission et je voulais spécialement également remercier Antoine de Saint-Exupéry, Christian Bobin, Victor Hugo et Lamartine d'avoir contribué à l'introduction de cette émission. Première question, messieurs, dames. Je vais vous donner trois petites statistiques et je vous demanderai de réagir. En Suisse, une personne sur deux lit au moins 4 livres par an. En France, une personne sur 6 ne lit quasiment pas. Qu'est-ce que ça vous inspire, Philippe Béroux?
Ça veut dire qu'on a encore beaucoup de travail à effectuer, qu'il y a nécessité d'avoir effectivement ce genre d'association qui s'active très très fortement au sein de notre société pour qu'effectivement on puisse résorber ce véritable problème de non-lecture.
Denise Lacoste, est-ce que ce sont des chiffres qui vous surprennent ?
Pas vraiment, non.
Et vous-même, vous avez quelle cadence de lecture en moyenne ?
Ça dépend des périodes. Là, en ce moment, je lis beaucoup, mais ça dépend. Il peut y avoir des moments où je lis moins, mais bon, je lis bien deux livres au moins par mois, voire trois.
D'accord. Jean-François Vessière, je vous donne une autre information. Puis je la soumets à la question de vous trois. À votre avis, il y a combien de manifestations par an concernant le livre en Occitanie ? Dans de manifestations répertoriées avec un minimum de notoriété. Ah ben, un ordre de grandeur.
En Occitanie, en plus.
Ouais. Je dirais 100 ou 150.
Voilà. Alors, 260, finalement.
Ah oui,
donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de manifestations au sujet du livre. Bon, je ne vais pas vous l'apprendre à vous, puisque vous parcourez les salons du livre. Il y a de nombreux salons du livre.
Ouais.
Et donc, quelque part, c'est un bon signe. Mais quand on le rapproche des statistiques, on se dit que peut-être en faudrait-il davantage. Bien, alors Philippe Béroux, vous êtes président des Gourmets de Lettres. Vous pourriez nous expliquer d'abord comment on devient président des Gourmets de Lettres et ensuite quelles sont vos fonctions et vos responsabilités.
Alors, on devient président des Gourmets de Lettres par la force des choses, arrivé à un moment. c'est pas un poste qui est très, très prisé, apparemment, d'après ce que je comprends. Bon, je suis président depuis déjà une dizaine d'années, je crois. Donc voilà. Le président, c'est pas forcément un écrivain. Hein. Moi, je ne suis pas écrivain moi-même. Par contre, je suis un lecteur assidu. Et c'est aussi une association qui regroupe un peu des gens qui sont très attachés d'abord à la lecture, à l'écriture, tout ce qui concerne les livres. Et aussi, c'est une équipe qui est très, très soudée. On a une très, très belle équipe autour. J'ai une très belle équipe autour de moi que j'ai réussi à agripper en faisant les tours des salons. Donc voilà, je les ai reçus avec moi. Et puis l'association, c'est une association qui existe depuis déjà 20 ans. Donc on va fêter la création de l'association, on va fêter ses 20 ans l'année prochaine. Donc elle a été créée en 2006 par notre président d'honneur, qui s'appelle Yann Rebeschini, qui est à l'origine de cette association, dont le but est, donc, dans les statuts, il est précisé que le but essentiel, c'est de promouvoir la lecture, la création littéraire émanant d'auteurs confirmés et de jeunes talents, tant auprès des adhérents que du grand public. Et dans ce cadre, l'association organise des rencontres et participe à toute manifestation entrant dans le cadre de son objet. Et elle pourra également décerner des prix pour récompenser et encourager des adultes. On en parlera plus tard.
On va y revenir, effectivement.
Voilà. Au niveau du conseil d'administration actuellement en place, c'est donc notre ligne de conduite. C'est vraiment notre cheval de bataille. Et nous avons la volonté de nous ouvrir au plus grand nombre de personnes désireuses de lire, d'écrire, d'éditer et de participer activement à la vie de notre association. Et nous voulons également tisser des liens avec d'autres associations. Ça va être le cas lors du salon où on aura quelques associations, notamment une association d'étudiants qui participera au salon. Et on va voir si on peut créer des liens beaucoup plus forts avec eux à la suite de ces rencontres. Je voudrais tout particulièrement noter donc le très gros travail des communications, un secteur suivi très professionnellement, par notre chargé de communication, Jean-François, ici présent. Ce gros travail a sans nul doute fortement contribué à ce succès. Donc ça fait quand même 3 ans que Jean-François œuvre au sein de notre association et on fait depuis quelques années un très très gros travail sur la communication.
Alors justement, Jean-François Vessière, vous pouvez nous expliquer un petit peu quels sont les ressorts et les fondamentaux de la stratégie de communication pour l'association et pour le salon.
Alors, les principes de la communication, c'est qu'on fait un dossier de presse ou un communiqué de presse qu'on envoie aux journalistes, mais ce n'est pas nous qui décidons, nous on ne fait que les envois. Ensuite, c'est les journalistes qui décident. Bon, de temps en temps, il faut leur mettre une petite piqûre de rappel, comme j'ai fait ce matin, entre autres. Et puis, bon, il faut surveiller, bien sûr, les parutions quand elles sortent. Par exemple, si c'est un mensuel, il faut l'envoyer avant la parution. Si c'est un quotidien, il faut l'envoyer la veille ou l'avant-veille ou peut-être une semaine avant. Donc, il y a tout un calendrier à suivre d'envoi. Voilà. Après, il faut essayer d'écrire le plus possible pour le journaliste, c'est-à-dire qu'il ait le moins de travail à faire, c'est-à-dire qu'on fasse le titre, l'accroche, le contenu, et qu'il n'ait plus qu'à signer, ou alors à changer un verbe ou un adjectif. En gros, ça consiste à ça.
Y a-t-il un sous-entendu sur vos propos ?
Absolument pas, mais c'est pas du tout contre les journalistes, loin de là, ce que je comprends. Ils reçoivent surtout, par exemple, le mois de septembre, il y a énormément de dossiers de presse, et de conférences de presse, et de choses qui se passent sur Toulouse, donc ils sont inondés d'informations, donc il faut accrocher leurs yeux ou leurs oreilles par une accroche la plus dégustative, la plus gustative si j'ose dire, et puis voir si jamais ils réagissent ou s'ils ne réagissent pas, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'on fait de la communication, on ne fait pas de la publicité. Si on faisait de la publicité, on achèterait l'espace, ça serait plus facile, mais là on ne peut pas.
D'accord. Alors, même question qu'à Philippe Bérou, comment on devient en position de s'occuper de communication pour une association littéraire? Le hasard aussi?
Oui, c'est le hasard. On s'est rencontrés lors d'un salon où je participais en tant qu'auteur.
Et il a eu un prix, d'ailleurs.
Et Philippe m'a gentiment dit, si tu venais nous aider, ça serait bien. Donc il était sympathique, l'équipe était sympathique, donc j'y suis allé avec grand plaisir, d'ailleurs.
Alors, est-ce qu'il faut, pour être responsable de la promotion, de la communication pour une association de ce type, est-ce que c'est un plus d'être écrivain, parce que vous êtes écrivain?
Non, pas spécialement. On peut faire de la communication sans être écrivain. Mais disons que je connais un peu plus les arcanes de la situation, quoi. Donc, c'est un peu plus facile, quoi, disons.
D'accord. Denise Lacoste, alors j'ai envie de vous poser exactement la même question. Quel est votre cheminement? Quel est le chemin qui vous a conduit à ces responsabilités financières?
Alors, le cheminement, moi, je suis arrivée il y a 3 ans environ à l'association lors d'un repas débat, puisque mon mari était déjà dans l'association en tant qu'auteur. Il allait à ses repas débat, et moi, pour la première fois, je suis allée à un repas débat avec lui. Et comme il préparait le salon, j'avais Philippe en face de moi, et j'ai dit, si vous voulez, je peux vous aider, je peux être une petite main du salon. Et là, il a dit, très bien, vous serez trésorière adjointe. Je suis restée couette.
Donc, il suffit d'un repas. Alors, je vous propose de revenir à l'association des gourmets de lettres. Donc, vous avez dit, cette association a été créée en 1966.
Non, en 2006. Non,
en 2006. 2006. En 2006, d'accord, ouais. D'accord.
Octobre 2006, exactement.
Et comment c'est venu?
Alors, je ne saurais vous dire, parce que bon, j'ai pas véritablement l'historique dans la tête, mais je sais qu'il y avait quand même un noyau très, 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 très dur qui voulait absolument créer cette association et créer tout ce qu'il y a autour. Il y avait apparemment dans le groupe, il y avait donc Yann Rabeschini, il y avait le professeur Jacques Arlet également, que vous connaissez, je pense, et il y avait d'autres personnes qui vraiment... c'était des écrivains, hein, la grande partie de ces gens qui ont lancé cette association étaient écrivains eux-mêmes. Donc voilà, c'est eux qui ont incité à créer cette association en 2006. Et depuis 2006, y a eu pratiquement tous les ans un salon, sauf lors de la pandémie où on n'a pas pu organiser ce salon. Et voilà, quoi. Et depuis 2006, le salon se tient à l'hôtel d'Assesa, sauf une année où il a été tenu à la place Saint-Pierre sous chapiteau. Voilà.
D'accord. Alors, on va y revenir en détail au salon. Auparavant, est-ce que vous pourriez nous préciser les notions de société savante ou de cercle littéraire, Jean-François Vessière? Comment on peut qualifier, quel est le meilleur qualificatif pour les gourmets des lettres?
Le fait de travailler avec la société savante
comment vous vous définissez?
Une association littéraire.
Ouais. Association littéraire, ouais. Tout simplement.
Association littéraire, et puis on est très généraliste, hein, on est ouvert vraiment à... Notre souhait, c'est vraiment d'ouvrir notre salon et notre association à toute... que ce soit des romans historiques, des polars, enfin, on est vraiment ouvert à tout.
Et
les BD, et on tient aussi absolument à s'ouvrir vers la jeunesse aussi. Depuis trois ans, on a mis en place un prix du livre jeunesse. Et donc, on tient très fortement à ce point-là. Et tous les ans, régulièrement, on essaye d'avancer là-dessus. Par exemple, cette année, lors du salon, on va en parler, on va tenir un atelier BD, hein, qui sera animé par un dessinateur de BD, c'est Fred Medrano, qui est connu sur la place toulousaine. Et voilà, quoi. On veut vraiment avoir d'ailleurs, l'an dernier, on avait énormément d'auteurs jeunes, quoi. J'ai été vraiment très, très surpris. Et le salon a été visité par beaucoup, beaucoup de jeunes également, quoi. Voilà.
Alors, cette association, les Gourmets de Lettres, elle compte combien de membres à l'heure actuelle?
Alors, cette année, nous avons 86 membres.
L'année
dernière, c'était 85, donc c'est à peu près...
Et ses membres sont tous des auteurs. Et est-ce qu'il est obligatoire d'être auteur pour être membre de l'association?
Non, ce n'est pas obligatoire, mais beaucoup sont des auteurs, oui.
D'accord. Oui,
oui. Non, il suffit d'aimer la lecture. On est une association littéraire, donc il suffit d'aimer la lecture. Ouais. Si on est auteur, il n'y a pas de problème. Mais bon, si on n'est pas auteur, il n'y a pas de problème non plus.
Très bien. Alors, on va voir ultérieurement, on va essayer de passer en revue toutes vos activités. Néanmoins, je voudrais savoir si vous avez une action spécifique au titre de votre association envers les librairies qui sont quand même des vecteurs de communication et des vecteurs de diffusion pour les auteurs. Qui veut répondre?
Alors oui, on a une action envers une librairie, qui est la librairie Priva, qui est un de nos partenaires, et donc qui est sur le salon, et donc qui prend bien sûr les livres qu'ils ont dans leur librairie, mais qui prend aussi des livres des auteurs qui sont présents, de certains auteurs qui sont présents, sous certaines conditions. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut qu'il y ait des retours de la part de l'éditeur, parce que bon, Priva ne prend pas en charge les retours des livres. Et puis, ils reçoivent aussi, la librairie Prévert dans l'année, reçoit certains auteurs ou autrices qui ont été primés lors du salon.
D'accord. Donc, ce qui permet de créer une visibilité pour ces auteurs.
Oui, oui, tout à fait. Hein? Oui, puis on a d'excellents rapports avec eux. Donc, ça, avoir une librairie sur place, c'est, et une librairie telle que la librairie Prévert, c'est, pour nous, c'est un plus.
Je vous propose maintenant d'écouter notre ami Cabrel, Difficile à croire.
Je vois une librairie en ville, je cours m'acheter un bon bouquin. Le gars me dit, vous tombez pile, justement, il nous en reste un. Comme je rentrais chez moi tranquille, là j'ai croisé ton chemin. D'ordinaire je lis 30 pages, après je dors jusqu'au matin.
Où est là, est là.
On attendait au même passage, le hasard fait les choses bien.
Où est là, est là.
Un souffle gonflait ton corsage, l'ouvrage m'est tombé des mains. C'était pas un livre d'images, c'était pas la comtesse de Ségur. On a déchiré l'emballage, on a un peu froissé la couverture.
Où est là, est là.
J'avais tamisé l'éclairage, nos ombres dansaient sur le mur.
Où est là, là c'est difficile à croire.
Je sais, je sais, je sais, c'est difficile à croire. Je parle des livres auxquels je crois. Je noie mes amis de conseils et de conseils mes amis me noient.
Où est là, est là.
Cette fois-ci c'est plus pareil, je garde le conseil pour moi. Quand je raconte cette histoire, on lève les yeux, on sourit. Tu lis trop de romans de gare, tu t'égares et tu nous prends pour qui?
Où est là, est là.
C'est vrai, c'est difficile à croire, en ville il y a plus de librairie.
Où est là, là, c'est difficile à croire.
Je sais, je sais, je sais, c'est difficile à croire.
Thank you.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours en compagnie des gourmets de lettres de Toulouse qui tient son salon ce week-end, le salon du livre qui commence le vendredi 26 jusqu'au dimanche 28 septembre. Avant de reprendre notre conversation, Jean-François Vessière, difficile à croire par Monsieur Cabrel.
Rien à dire. C'est parfait.
Je vois une librairie en ville, je cours m'acheter un bon bouquin. Le gars me dit, vous tombez pile.
Il ne m'en reste qu'un.
Voilà. Donc tout est dit.
Tout est dit.
Alors revenons au positionnement un peu de l'association. Alors comment vous situez-vous par rapport à l'Académie des Jeux Floraux, par rapport à l'histoire relative à l'hôtel d'Assesa? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus?
Bien, on est dans la continuité des Jeux Floraux, puisque c'est une académie littéraire qui promeut la littérature, toute la littérature, en particulier la poésie. Donc, à l'hôtel d'Assesa, puisque c'est Théodore Ozenne qui a offert l'hôtel d'Assesa à l'Académie des Jeux Floraux, puisque M. Ozenne était mainteneur de l'Académie des Jeux Floraux. C'est-à-dire qu'il était une des personnes qui a succédé aux 7 troubadours qui ont créé les premières fleurs.
Et donc, le salon se déroule dans un lieu prestigieux.
Tout à fait.
Alors, cet hôtel d'Assesa est vaste. À quel endroit se situe
Il se situe donc au rez-de-chaussée, à la salle Clément Cizor, qui est la salle qui est le lieu de réunion de l'Académie des Jeux Floraux. Salle prestigieuse, elle aussi.
Et donc, dès le vendredi, la manifestation commencera à cet endroit-là.
Tout à fait. Le colloque du vendredi aura lieu à 17h à la salle Clément Cizor.
D'accord. Alors nous allons revenir dans le détail sur le colloque. Tout à l'heure, vous nous disiez que la vocation de l'association, c'était de fédérer les auteurs de Toulouse et de sa grande région et d'organiser un certain nombre d'activités. Alors je comprends que vous, parmi les activités, il y a des rencontres mensuelles autour d'idées. En lien peut-être avec le nom de l'association.
Nous organisons donc depuis plusieurs années déjà tous les deuxièmes mardis de chaque mois un dîner ou maintenant un déjeuner débat autour effectivement d'un auteur qui sera primé durant le salon. Et donc c'est une rencontre chaleureuse hein, qui se tient autour d'un repas gourmet hein. Voilà. Et cela s'organise depuis déjà un an à l'hôtel d'Assesa.
Non.
Excusez-moi, à l'hôtel Palladia, qui est d'ailleurs notre partenaire aussi, non seulement notre partenaire, mais il nous loge, notre siège social est situé donc à l'hôtel Palladia. On remercie d'ailleurs très chaleureusement la direction de cet hôtel de nous avoir accueillis. Nous avons de très très bons rapports avec eux. Et donc ces rencontres se passent d'une façon très chaleureuse et elles sont ouvertes à toute personne souhaitant rencontrer des auteurs. Et donc il suffit simplement de s'y inscrire et d'aller sur le site et de prendre les coordonnées et puis d'adresser leur demande à l'association qui prend ça en note. Quoi.
On est informé par quel moyen de ces événements?
Alors, l'information est donnée par l'intermédiaire de notre site internet. Hein. C'est gourmetdelettres.com, hein, https, etc.
Gourmet des lettres, ça devrait suffire.
Gourmet de lettres, oui. Voilà. Ou alors aussi, vous avez également notre site Facebook qui donne également l'information. Donc, on met sur le site donc l'auteur invité et un peu le détail de ce qu'il va présenter avec le nom de son ouvrage,
Et donc voilà, suivant les auteurs, les gens sont plus ou moins intéressés. Et on a en général, on a quand même une vingtaine de personnes qui viennent régulièrement, quoi. Et on souhaite ouvrir à toute personne souhaitant y participer.
Donc on lance l'appel à nos auditeurs, s'ils sont intéressés, les portes sont ouvertes.
Le premier, si vous voulez, déjeuner débat, oui, se tiendra donc. Attendez, c'est un déjeuner ou un dîner, je ne me souviens plus. C'est un dîner débat. Le premier dîner débat aura lieu le 14 octobre. Donc on se donne rendez-vous à 19h à l'hôtel Palladia, voilà, qui est situé au 271 avenue de Grande-Bretagne. Voilà.
Et le premier invité de la saison ?
Ça, ce sera la surprise.
Ça sera la surprise.
Ce n'est pas encore annoncé.
Ce n'est pas encore annoncé. Alors, au-delà de l'organisation de ces repas littéraires, je crois savoir que vous avez d'autres activités.
Alors oui, depuis l'année dernière déjà, nous avons la volonté de nous ouvrir à d'autres organismes. On intervient au sein notamment de certaines EHPAD. On fait des lectures, on propose des lectures, on anime donc une sorte d'atelier les lectures autour de ces EHPAD. On a l'intention aussi, mais ça c'est en projet, de travailler aussi avec les hôpitaux, notamment en direction des enfants, mais ça c'est en projet. On n'a pas encore lancé cette activité, mais c'est vraiment en projet. Alors je voulais simplement le dire que c'était aussi en mémoire d'un ami que nous avons perdu il y a de ça un an, hein, François, qui lui était très attaché à cette initiative. Et donc, on tient très fortement à mettre en place cette animation.
D'accord. Et sous quelle forme ça, vous pensez que ça va pouvoir se dérouler ?
Oh, ce sera sous la forme de lecture, d'animation. On fait plein de choses. On essaye d'impliquer aussi les personnes qui y participent en leur faisant des... Tu peux en parler peut-être un peu, Denise ?
Oui, la dernière fois qu'on a eu une réunion à l'EHPAD du docteur Marie, en centre-ville, nous avons fait des charades, par exemple. Les personnes accueillies dans cette EHPAD ont beaucoup apprécié de chercher à travers les mots de quoi on voulait parler. On essaie de trouver des petites choses en plus des lectures.
Et vous procédez dans les EHPAD, est-ce que vous procédez à des lectures directement?
Oui.
On s'appuie sur des livres traditionnels, style, je sais pas moi.
On a commencé avec des fables de La Fontaine.
Voilà, par exemple.
Parce que ça parlait beaucoup aux gens. Mm-hmm. Et on les voyait qui essayaient de les réciter en même temps que nous. C'était très intéressant.
On a lu du Pagnol, on a lu des sketchs de Raymond Devos aussi. Ouais. C'est, on essaye d'animer un peu pour que les gens ne s'ennuient pas, quoi. Donc, ouais. Et en même temps, on est à leur écoute, quoi, parce qu'on a eu des souhaits de certaines personnes de nous entendre lire certains ouvrages qu'ils auraient souhaité voir, quoi. Voilà.
D'autant que dans cette population, les difficultés de lecture, de vue...
Oui.
Oriente plutôt l'activité, effectivement, vers la lecture par un tiers.
Mm-hmm. Voilà, tout à fait.
Alors, vous organisez d'autres activités, et en particulier un concours primé. Vous pourriez nous en dire un petit peu à ce sujet-là ?
Alors, oui, tous les ans, donc, nous organisons, dans le cadre du salon, nous proposons des prix. Donc, il y a des prix qui sont décernés lors du salon. Ces prix, donc, nous organisons ça. Donc, ce sont les auteurs qui présentent leurs ouvrages, s'ils le souhaitent. Hein. Donc, nous avons plusieurs catégories. Voilà. Il y a, par exemple, la poésie, il y a la biographie, il y a la nouvelle, il y a l'essai, il y a le livre jeunesse, dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a le polar. Alors, il y a aussi un prix qu'on a nommé spécifiquement, c'est le prix du roman historique, appelé depuis trois ans déjà, le prix professeur Jacques Carlet. Donc, on a voulu décerner un prix avec le nom du professeur. Et des fois, nous mettons également un prix coup de cœur. Nous décernons également un prix de coup de cœur.
Il y a le roman,
évidemment, il y a le roman. Alors, le roman, c'est là où, effectivement, il y a... il y a le plus d'ouvrages qui concourent. Hein. On a beaucoup d'ouvrages. Cette année, on a eu énormément de poésie. On a été un peu agréablement surpris. On a eu à peu près 5 ou 6 ouvrages. 7 ouvrages de poésie. Par exemple, l'an dernier, donc, y a plusieurs. Donc, le prix de la poésie, c'était Nathalie et Vincent Arnaud pour Deschamps, qui a eu le prix de la poésie. C'est une femme qui a eu un prix avec l'Académie des Jeux Floraux aussi également. Ensuite, le prix de la biographie, c'était un monsieur qui s'appelle Pierre Petremann, qui a écrit un ouvrage sur Raymond Nave.
Que nous avons reçu ici, d'ailleurs.
Voilà, d'accord, oui. Donc, roman historique. Ensuite, nous avons eu Chantal Ray qui nous a proposé un ouvrage sur les nouvelles. Le titre étant « Jean de Plume et autres nouvelles ». Ensuite, l'essai, il y avait Florian Moyen-Péo pour abréger le Béarn. Il a raconté un peu l'histoire du Béarn. C'est son petit pays à lui. Il est très attaché à son pays. On a eu le prix du livre jeunesse aussi qui a été décerné à une jeune fille qui s'appelle Ritournelle, qui a écrit un ouvrage s'intitulant « Chez moi au Burkina Faso ». C'est un peu une histoire qu'elle a vécue au Burkina Faso. Elle a vécu dans...
Très joli livre.
C'est une tarasconaise, Tarascon sur Ariège. Ensuite, nous avons eu le prix du polar.
Marc Molinier.
Le titre étant « Garonistan ».
Tout un programme,
très très intéressant d'ailleurs. Et le prix du roman historique professeur Jacques Carlet, c'était à Pascal Despablo. Pascal Despablo également, qui a écrit, le titre étant « Le guerrier des nuages ». C'est l'histoire de... Ça se passe en Amérique latine, je crois.
Chez les Incas, oui.
Chez les Incas. Il a souvent l'habitude d'écrire sur cette région-là. Hein. Il avait déjà sorti un ouvrage il y a quelques années de ça, où il avait été primé déjà chez nous. Et enfin, le prix coup de cœur qu'on avait décerné à Sophie Pigas-Magnou pour Fin de vie. Donc, c'est un témoignage sur l'anorexie, c'est ça. Voilà. Elle nous avait présenté... Il y avait eu une sorte de conférence lors du salon aussi autour de cette personne qui vit actuellement en Bretagne. Voilà.
D'accord. Donc, est-ce que vous pourriez nous préciser combien d'ouvrages vous avez reçus?
Je voudrais reprendre justement. Tout ça pour dire qu'en fait, on reçoit énormément d'auteurs d'Occitanie, mais aussi de la France entière. Et par exemple, cette année, on aura à peu près une quarantaine d'auteurs. Hein,
45. Dont 5 ne sont pas d'Occitanie.
Et on aura, pas l'honneur, mais parmi eux, il y aura une autrice qui est de Toulouse, qui est une journaliste jeunesse, et qui vient de recevoir le prix du roman 2025, Femme actuelle, qui s'appelle Héloïse Riera. Voilà.
Donc, il y a une ouverture marquée à l'extérieur de l'Occitanie et une volonté de...
Toujours. On a toujours été ouvert à l'extérieur de l'Occitanie, en privilégiant effectivement quand même la région Occitanie, hein, parce que la majorité des auteurs sont issus de notre région quand même, quoi. Mais on est ouvert... On est ouvert à tout auteur qui souhaite, parce qu'il faut savoir quand même qu'on a tous les jours pratiquement, j'ai des sollicitations. J'en ai encore aujourd'hui des sollicitations d'auteurs souhaitant participer à notre salon. Quoi. Donc c'est très, très... Je pourrais dire pratiquement que l'année prochaine, on est presque plein encore quand même déjà.
Ah oui,
c'est quand même très, très, très motivant, quoi, le fait de savoir que les auteurs... Bon, on commence à avoir une certaine notoriété depuis 2-3 ans qui se fait... qui nous fait découvrir un peu partout, quoi. Voilà.
Et il faut dire qu'on reçoit autant les auteurs qui sont édités par des éditeurs, que ce soit des éditeurs nationaux ou des éditeurs régionaux, mais aussi des auteurs auto-édités. Donc, alors, on n'en fait pas de ségrégation.
Non. Alors, il y a des esprits chagrins qui prennent le fait d'être auto-édité comme un critère qui n'est pas forcément un critère à retenir. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet?
Je pense, enfin, là c'est plus l'auteur qui parle, mais je pense que quand on lit des ouvrages qui sont édités par des gros éditeurs parisiens, enfin, ou français, on n'a pas forcément la qualité. Et que quand on lit certains auto-édités, je ne dis pas tous, mais il y a certains auto-édités qui mériteraient d'être édités au niveau national, et notamment dans notre région. Donc cette ségrégation auto-édité. Alors c'est vrai que grâce au Covid ou à cause du Covid, beaucoup de gens se sont mis à écrire. Et s'imaginent que parce qu'ils racontent leur histoire, ça va intéresser beaucoup de monde. Écrire, c'est pas forcément, même si on écrit quelque chose pour soi, c'est partir du personnel pour aller à l'universel. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette démarche d'aller à l'universel. Parce que votre histoire peut être intéressante, mais elle ne peut intéresser que vous. Il faut qu'elle ait une portée universelle. C'est-à-dire que l'autre qui vous lit se retrouve un peu dans ce que vous racontez, quoi.
Est-ce qu'on peut dire que vous avez une contribution à une sorte de redistribution des cartes pour que les gens qui sont en auto-édition puissent accéder à un lectorat plus large ?
On n'a pas cette prétention, mais ce serait un peu prétentieux de notre part. Mais le salon est fait pour ça, c'est pour être connu par le public toulousain et des environs de Toulouse. Donc, et puis, il y a aussi des éditeurs qui viennent au salon, qui viennent fouiner un petit peu. Donc, peut-être qu'il y en a certains qui ont rencontré des éditeurs comme ça.
Voilà, donc c'est des rencontres qui peuvent être fructueuses, finalement.
C'est un laboratoire où les gens se rencontrent, où on rencontre le public, on rencontre les éditeurs, on rencontre les auteurs.
D'accord.
Et cette année, on pourra rencontrer, je ne sais pas si j'avance un petit peu sur le programme.
Vous pouvez.
Mais on pourra rencontrer, entre autres, Guillaume Cyr, qui est un auteur toulousain qui est connu maintenant, qui a eu le prix de Jeux Floraux, le prix de la poésie des Jeux Floraux, qui est édite chez Calman Lévy, chez Plon, et qui a eu, en 2020, je crois, qui a eu le prix Orange.
Oui.
Voilà, et dont on a dit que le lyrisme de ce monsieur correspondait à celui du Grand Molde.
Oui.
Donc je pense que c'est quelqu'un qu'il va falloir venir écouter, puisque bien sûr il sera là pour le public, on pourra lui poser des questions. Et puis, bon, il y aura les 45 auteurs et autrices qui sont là, avec qui on pourra discuter.
On va y revenir en détail. Tout de suite, je vous propose d'écouter Renaud, Les mots.
C'est pas donné aux animaux, pas non plus au premier blaireau. Mais quand ça vous colle à la peau, putain, qu'est-ce que ça vous tient chaud? Écrire et faire vivre les mots sur la feuille et son blanc manteau. Ça vous rend libre comme l'oiseau. Ça vous libère de tous les maux. Ça vous libère de tous les maux. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. Poèmes, chansons, brûlots vous ouvrent des mondes plus beaux, des horizons toujours nouveaux qui vous éloigne des troupeaux. Il suffit de quelques mots pour toucher le cœur des marmots, pour apaiser les longs sanglots quand votre vie part à volo, quand votre vie part à volo. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. D'un Brassens, d'un Nougaro, la plume d'un Victor Hugo éclaire ma vie comme un flambeau. Alors gloire à ces héros qui par la magie d'un stylo et parce qu'ils font vivre les mots emmènent mon esprit vers le haut, emmènent mon esprit vers le haut. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Je vous rappelle que le Salon des Gourmets de Lettres se tient ce week-end à Toulouse, à l'hôtel d'Acesa, du vendredi 26 au dimanche 28. Nous venons d'écouter les mots, écrire et faire vivre les mots sur la feuille et son blanc manteau. Ça vous rend libre comme l'oiseau, ça vous libère de tous les mots. Denise Lacoste.
Oui.
Quel choix!
Oui, j'ai été très émue en lisant les paroles de cette chanson, c'est pour ça que je l'ai choisie. Voilà. Parce que, alors gloire à ces héros qui, par la magie d'un stylo et parce qu'ils font vivre les mots, emmènent mon esprit vers le haut. C'est magnifique.
Jean-François Vessière, écrire et faire vivre les mots, ça vous rend libre comme l'oiseau. Est-ce que l'écriture a toujours une qualité libératrice ? Enfin, pour vous ?
C'est une bonne question, je vous remercie de me la poser. Je répondrai uniquement sur le plan personnel. Pour moi, oui. Pour moi, oui.
C'est un bon moyen.
C'est un bon moyen, oui. D'évacuer des choses ou d'en inventer. D'inventer des vies qu'on n'a pas eues. Voilà.
Bien.
Parfois.
Alors, je voudrais que nous revenions peut-être... sur le fonctionnement de l'association, parce que j'ai cru comprendre que votre association, comme d'ailleurs de nombreuses associations, reposait sur le bénévolat. Et vous vouliez dire un mot, Philippe Béroux, sur le sujet ?
Oui, je voulais quand même mettre très fortement en avant le travail de tout ce groupe d'amis, parce que ce sont des amis autour de moi, qui s'investit tout au long de l'année pour faire vivre cette association, non seulement pour... organiser le salon, mais également aussi pour préparer donc les dîners-débats, pour aussi organiser les ateliers lecture qu'on va mettre en place, qu'on va relancer courant octobre, novembre, on verra. Et donc je voulais mettre très, très fortement ça en avant, très au travail d'Alain qui est notre secrétaire actuel, qui avec son épouse Michel passe je ne sais combien de temps à travailler sur toute la partie administrative, à organiser tous ces jurys, tous ces si on a des prix qui sont décernés, c'est aussi grâce à eux parce que tout au long de l'année ils réceptionnent donc les ouvrages qui concourent à ces prix. Ils organisent aussi les jurys, ils mettent en place donc tous les jurys, donc c'est vraiment un très très gros travail. Et ils prennent énormément de leur temps là-dessus. Quoi.
Alors, vous pouviez rappeler précisément leur nom et leur prénom ?
Alors, c'est le nom du secrétaire, c'est Alain Roquefort, qui lui également est écrivain, qui a reçu le prix Femme Actuelle il y a de ça quelques années, je ne me souviens plus, 2015, je crois.
Oui.
Son épouse Michel, qui est secrétaire adjointe, qui a également fait un très très gros travail. Donc tous les deux, ils sont vraiment très très fortement investis. Alors c'est pareil, moi je les ai grappillés comme Jean-François et comme Denise pour s'impliquer dans cette association. Je m'en excuse hein, quand même.
Et Michel fait un très gros travail sur la recherche des parrains
Tout
du
fait.
Salon.
Elle a raison, Denise. C'est effectivement la recherche des parrains donc, qu'on a maintenant depuis 3 ans dans les salons. C'est Michel qui s'investit très très fortement. Pour découvrir les pépites de ces invités d'honneur qu'on a maintenant depuis 3 ans. Je voulais aussi mettre en avant le travail très très fort de Jean Durieux de Madron. C'est une personne donc très discrète, mais qui...
Très efficace.
Très efficace, qui travaille en double avec Denise. Donc ce sont nos maillons, nos ministres des Finances...
Sans déficit,
qui tiennent très très bien le cordon de la bourse. Et je ne dirais pas que c'est un hérisson, mais c'est...
On fait très attention.
Voilà.
Les bonnes personnes dans la bonne fonction.
Voilà.
Tout à fait.
Alors, j'oublierai pas non plus, parce que le conseil d'administration, il y a effectivement donc tous ces piliers. Hein, j'ai parlé de Jean-François tout à l'heure. Il y a également, dans le conseil d'administration, nous avons Madeleine, qui elle aussi s'investit. Nous avons Marie-Laure, qui est l'épouse de François, dont on a parlé tout à l'heure, qui est aussi impliquée, qui a un projet qui essaye de mettre en place la nouvelle initiative, la nouvelle animation dont j'ai parlé tout à l'heure en direction des enfants dans les hôpitaux. Nous avons également Yann qui est toujours, présente au sein du conseil d'administration.
Donc au total, nous l'avons compris, une équipe très motivée. Ouais. Alors ce que je voudrais vous poser comme question, c'est que nous revenions au salon. Vous attendez combien de visiteurs ?
Alors l'année dernière, on a eu...
1485 visiteurs l'année
1485,
dernière.
1485, voilà.
Donc c'est un chiffre qui vous satisfait ou on peut en faire encore mieux.
On peut faire mieux, mais il faut aussi tenir compte de la capacité de la salle. Donc il y a des moments où on ne peut pas recevoir 2000 personnes. Quoi, hein.
Ouais. Il y a deux ans, on a eu 1800 personnes.
Oui, il y a deux ans, on a eu 1800.
C'est-à-dire, il faut peut-être instituer un filtre à l'entrée pour qu'il n'y ait pas de bousculade.
Non,
ça se passe très bien.
Avec une moyenne de 1500, c'est bien. Le principal, c'est que les lecteurs et les lectrices soient contents de rencontrer des auteurs et que les auteurs puissent aussi vendre leurs ouvrages.
Voilà. Donc je rappelle que ce salon a lieu à partir de vendredi, le 26 septembre, jusqu'au dimanche 28, dans l'hôtel d'Assesa, que l'entrée est gratuite. Ouais. Je voudrais qu'on redise un petit mot sur Guillaume Cyr, donc, qui sera l'invité d'honneur. Il est l'auteur de « Avant la longue flamme rouge », qui, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, a reçu le prix Orange du livre en 2020, « Les grandes patries étranges » qui est paru en 2024, et que l'œuvre de cet auteur interroge essentiellement la mémoire, l'identité et le récit, et que vous organisez donc une rencontre avec le public, avec cet auteur, comme d'habitude, qui permet donc à tout un chacun de poser des questions à l'auteur et de découvrir son œuvre. Alors, au niveau du programme, il y aura, j'ai compris, puisque maintenant nous approchons de la fin de cette émission, qu'il y aura des conférences, un atelier BD et un concert. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de conférence, s'il vous plaît ? Jean-François ?
Les conférences, il y en aura plusieurs. Moi, il y en a une qui m'intéresse spécialement, enfin, c'est pas personnellement, mais qui m'intéresse parce qu'on parle des auteurs. Beaucoup d'auteurs qui viennent ne sont pas connus nationalement, ils sont connus régionalement. Mais il y a aussi des musiciens qui vont venir et qui, eux, vont faire une conférence sur quelle est la vie d'un musicien qui n'est pas connu, comme un auteur qui n'est pas connu. Et donc, je pense que cette conférence va être intéressante, d'autant qu'elle sera suivie le soir ou la veille, je ne sais plus.
Le soir,
par un concert qu'ils donneront. Ils sont deux et c'est un concert où ils revisitent tous les standards de rock et de pop. Et c'est vraiment d'excellents musiciens.
Merci beaucoup Jean-François Vessière. Donc, je rappelle aux auditeurs que le Salon des livres et des gourmets de lettres de Toulouse aura lieu à l'hôtel d'Assesa à Toulouse du vendredi 26 septembre au dimanche 28 septembre. Conférences, ateliers BD, entretien avec un écrivain, avec l'invité d'honneur Guillaume Cyr, et il y aura même un concert avec de la musique. Merci aux gourmets des lettres d'être venus nous expliquer les choses. Je vois que Denise Lacoste me fait signe en disant qu'effectivement, elle veut attirer l'attention du public sur la difficulté de financer de telles activités.
Tout à fait. Les sources de financement de notre association sont de trois ordres. Les cotisations des membres, les dons des particuliers, et les subventions des collectivités locales. Territoriales que sont la mairie de Toulouse, le conseil départemental et la région Occitanie. Malheureusement, les subventions sont de moins en moins importantes étant donné les difficultés économiques du pays. Donc, je voudrais lancer un appel. Nous cherchons des partenaires pour notre salon de 2026 parce que ça serait dommage que par manque d'argent, nous ne puissions pas réaliser notre 20e Salon du Livre.
Je suis certain que les auditeurs de Radio Présence seront sensibles à cet appel. Merci aux Gourmets des Lettres, merci aux auditeurs. Merci. Je vous rappelle que Radio Présence est partenaire du Salon du Livre et Parole d'Auteur sera présent au Salon et animera la rencontre avec l'invité d'honneur Guillaume Cyr. Rendez-vous donc au Salon ce week-end. Au revoir à tous et bonne lecture.